بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. شفاء الإسلام. dans ce hadith d'Abu Huraira رضي الله عنه, le prophète عليه الصلاة والسلام nous explique qui sera l'élite, le joueur de la résurrection. Là, on est en train de parler de la crème des crèmes, les meilleurs des musulmans. Ça, quand on lit ce hadith, nos cœurs doivent trembler. Ceux qui comprennent l'arabe, ils ont compris. On va traduire. Quand on lit ce genre de hadith, on doit avoir raghba, l'envie de faire partie de ces sept catégories de personnes. Ce hadith-là, on l'avait annoncé. On va avancer un petit peu, il y aura plus de baraka si on est proche. On avait annoncé, on avait abordé ce hadith la semaine dernière, à travers le chapitre « Quelle sera la situation des atqiya, le jour de Qiyam ?» Les gens qui ont vécu dans la crainte d'Allah. On avait vu avant ça, bien avant ça, pendant un trimestre, quelle sera la situation des pécheurs le jour de Qiyam. La personne qui a vécu dans le rafla, dans l'insouciance. Tout ce qu'il a envie de faire, il fait. Il a envie de manger ça, il mange. Il halal, pas halal, il mange. Il a envie de boire telle chose, il boit. Il a envie de sortir avec cette fille, il trouve cette fille jolie, il va la draguer, il va sortir avec elle. Il y a quelqu'un qui lui dit quelque chose, il va l'insulter, il va l'humilier, il va faire son ribat bohtan namima. Il va vivre comme il veut, sans qu'il y ait de limite entre le halal et le haram. Hal yastawi hada wa hada. Est-ce qu'on peut comparer une personne qui vit comme on vient de le décrire avec quelqu'un qui vit de ce dunya avec la pensée d'Allah en permanence dans son cœur, avec la crainte d'Allah? Aux horaires des prières, il est aux prières, il vient à la salat. Lorsque ses parents lui disent quelque chose, quelle que soit la nature de ses paroles, ça peut être des reproches ou quoi que ce soit, il sait qu'il a devant lui son papa, sa maman. Il sait qu'il a devant lui quelqu'un de plus âgé qu'il doit respecter. Il sait que quand il mange, il regarde ce qu'il mange. Quand il boit, il analyse qu'est-ce qu'il va boire. Quand il parle avec les gens, il réfléchit comment il va parler. C'est-à-dire, il vit avec la présence d'Allah dans son cœur. Alors vous voyez, mes chers frères, Allah il est adl et hakim. Allah est juste et Allah est sage. Et dans sa justice et sa sagesse, il a décrété que, hadith qu'on avait expliqué l'autre fois aussi, que celui qui vit dans ce monde avec insouciance, le cœur léger, mais dans le mauvais sens du terme, le cœur léger, c'est-à-dire sans crainte du akhirat, sans penser au paradis, à l'enfer, à la résurrection, la rencontre avec Allah, il fait ce qu'il veut, comme on a dit, celui-là, il a la garantie de la part d'Allah, la garantie, la promesse de la part d'Allah, que le jour de Qiyamah, il sera dans des difficultés. Il n'aura pas le cœur tranquille. Il aura difficulté sur difficulté, il aura l'angoisse de son cœur. Tandis que celui qui vit dans ce dunya, avec la crainte d'Allah de son cœur, il vit dans ce monde avec ce qu'on appelle la taqwa. La taqwa, c'est avoir la conviction qu'Allah m'observe. Et c'est la réalité. Allah observe chacun de ses serviteurs. Même s'il y a 3 milliards ou 4 milliards ou 5 milliards de musulmans, plus d'autres créatures qu'Allah seul le sait, Allah observe chacun d'entre nous. Parce qu'Allah, il est sami' et Allah, il est basir. Allah entend tout et Allah voit tout. Et Allah, ya'lamu ma fil quloub. Et Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs. Même si je ne dis rien, je ne fais rien, j'ai une mauvaise pensée, Allah il sait ce qu'il y a dans mon cœur comme pense. Même si 10 milliards de personnes sont en train de penser différentes choses au même moment, Allah il sait ce qu'il y a dans le cœur de chacune de ses créatures. Parce que lui c'est Allah. Il est au-dessus de tout le monde. Allah khaliq kulli shay, notre khaliq, notre créateur, notre malik, notre raziq. Et c'est Allah qui est au-dessus de tout. Et Allah il connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Ça c'est le ilm d'Allah, la science d'Allah. Ça c'est incomparable. Le terme ilm, c'est un mot qu'on utilise pour les makhlouqat, mais quand on parle du ilm d'Allah, c'est un autre niveau. Donc, dans la justice d'Allah, celui qui a vécu avec la crainte d'Allah dans son cœur, Allah lui promet la tranquillité le jour de Qiyamah. Impossible que quelqu'un vive avec la crainte d'Allah dans son cœur et que le jour de Qiyamah, cette personne soit inquiétée ou angoissée. Non. Allah lui garantit la quiétude, la tranquillité. Donc ça c'est, en introduction on avait expliqué que, maintenant quelle est la situation, deuxième partie, après avoir vu les pécheurs et les conséquences de chacun des pécheurs au jour de la résurrection, quelle sera la situation envieuse des muttaqin, des gens qui ont vécu avec l'amour d'Allah, la crainte d'Allah dans leur cœur. Et ça, ce n'est que, c'est bonne nouvelle sur bonne nouvelle. Et il est tout à fait normal de commencer ce chapitre avec le plus beau des hadiths concernant l'au-delà. Ce hadith, pourquoi on dit que c'est le plus beau? Parce que celui qui fait partie de ces gens-là, il sait qu'il a le paradis assuré. Celui qui vit, qui fait partie de ces gens-là, il n'y a rien à craindre là. On peut vous dire la situation d'un musulman dans le Jannat, mais celui qui, on décrit comment il est dans le Jannat, peut-être qu'il est passé par le Jahannam avant aussi. Peut-être qu'il a fait des péchés qui n'ont pas été pardonnés et qu'il a dû passer dans des difficultés pour se faire pardonner. Là, on, si on dit juste un hadith qu'un mu'min dans le Jannat, il va voir un oiseau passer, il va désirer manger de la chair de cet oiseau, il l'aura tout de suite. C'est un beau hadith. Maintenant, on ne sait pas est-ce qu'il est entré tout de suite dans le paradis ou il est resté 40 ans, 50 ans, 100 ans, 1000 années debout sous le soleil en attendant quand est-ce que son nom est appelé pour le hisab, comment il a reçu ce livret de compte, avec quelles difficultés, comment était la transpiration au niveau de ses chevilles, de ses genoux, de sa poitrine, quel taklif il a connu avant d'aller au paradis, ça on ne sait pas. Mais quand on parle de ce hadith, hadith de ces sept personnes-là, on sait que ça c'est la première étape de l'au-delà. C'est quand les gens se réveillent, c'est quand les gens sont ressuscités pour le mahjar, immédiatement ces gens-là ils sont les invités d'Allah. Et s'ils sont les invités d'Allah dès la résurrection, ça veut dire que toutes les autres étapes, c'est subhanallah, dans les mains d'Allah, sous la protection d'Allah, jusqu'à ce qu'ils accèdent à leur demeure au Firdaus ou au Jannah, quels que soient les niveaux du paradis. Alors ce hadith qui est magnifique, qui nous fait rêver, c'est le hadith dans lequel Abu Hurayra rapporte que le prophète a dit que cette catégorie de personnes seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura aucun ombre si ce n'est l'ombre du trône d'Allah. Le hadith qui dit, le verset du Coran dit également, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. On décrit la terre de la résurrection, Ardul Mahshar. C'est une terre qui est plate, c'est une plaine. Il n'y a pas d'endroit surélevé, il n'y a pas de crevasse, il n'y a pas d'ombre aussi. Et quand on dit que le soleil est au-dessus de la tête des gens, ça veut dire que ce soleil, il couvre toute la terre du mahshar. Il n'y a pas une personne qui peut se protéger de ce soleil, à l'exception de celui qui est sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'on dit que yawm la dhilla illa dhillu. Le jour, il n'y aura d'autre ombre, si ce n'est l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Et les sept catégories de personnes sont Imamun Adil, premièrement, un dirigeant juste. Et chaque catégorie, Inch'Allah, par la suite, peut-être chaque mardi, on développera, Inch'Allah, une de ces catégories. Un imam qui est juste. Imamun Adil. Quand on parle de imam, ce n'est pas celui qui officie, hein, c'est le dirigeant. Celui à qui Allah a accordé la responsabilité. Wa sha'abun nasha'a fi ibadatillah. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Un jeune qui, depuis son jeune âge, et on comprend qu'on parle d'un jeune. Qui dit jeune dit tentation. Qui dit jeune dit shahawat, hawa. Les désirs, les pulsions. D'accord? Ce jeune-là qui a vécu dans l'adoration d'Allah. Comprenons que c'est un jeune qui n'a pas connu les péchés. Qui a su se protéger du haram pour vivre comme Allah le voulait. Mais ça, on va expliquer en détail, Inch'Allah. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. Une personne dont le cœur est attaché aux mosquées. Une personne qui vit pour Allah. Ensuite, deux personnes, Rajulan et Habba Fillah, des gens, deux personnes qui s'aimaient pour Allah. Ils se rencontrent, ils se séparent pour Allah. C'est-à-dire, avant de l'amitié extrêmement sincère, pour Allah, pas par intérêt. Rajulun, da'atu, on a déjà dit en arabe, une personne, un homme, qui reçoit une invitation de la part d'une femme. Imra'a, pas n'importe qui, hein. Une femme, pas une femme de la rue, une femme de la haute société, une femme de grande famille et d'une grande beauté. Différence entre quelqu'un de la rue qui vous appelle et quelqu'un qui a un statut social qui vous appelle. Deux choses différentes, d'accord? Une femme d'un statut social, un certain statut, et d'une grande beauté qui invite un homme vers le zina. Mais cet homme-là, il dit « Inni akhafullah ». Il s'abstient uniquement par crainte d'Allah. C'est pas parce qu'il y a des gens qui le voient, c'est pas parce qu'il habite en face masjid, c'est pas parce que non. Il aurait pu le faire sans souci, sans problème, sans opposition, mais la seule chose qui l'empêche de faire le zina, l'adultère, c'est quoi? C'est la crainte d'Allah. Avant-dernier, une personne qui donne la sadaqa, qui donne le chemin d'Allah avec tellement de sincérité et qui cache sa bonne action à un tel point que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. C'est une expression qu'on utilise en français aussi. Ça montre comment la personne était sincère. Il a donné, mais il ne fait pas tapage. C'est pas qu'il va écrire un article dans le JIA et tout, que j'ai donné tant de choses à tel machin, non. Ou alors il va donner devant tout le monde, venez voir, je donne. Non. Il donne avec sincérité. Alors ça, franchement, c'est une personne qui, dans la solitude, il fait le dhikrullah, il pense à Allah, il pense à son Seigneur, et tellement son cœur brûle d'amour et de crainte d'Allah qu'il se met à pleurer. C'est pas qu'il pleure parce qu'il a une mauvaise nouvelle, hein. C'est pas parce qu'il pleure, ses enfants sont malades ou il y a un accident, non. Il pleure parce qu'il pense à son Seigneur. Il lit le Coran, description du paradis et de l'enfer, il pense à Allah et les larmes coulent de ses yeux. C'est pas non plus qu'il pleure parce que l'imam lit bien, ça le touche, non. On ne parle pas de la beauté de la lecture ou autre chose, non. On parle de ce que le cœur ressent en pensant à Allah. Donc, ces sept catégories de personnes-là seront invitées le jour de la résurrection pour être sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Qu'Allah nous accorde la possibilité de faire partie d'une, voire de plusieurs catégories de ces personnes. Et entre nous, mes chers frères, si on regarde les sept catégories de personnes, à l'exception de la première catégorie, les six peuvent nous concerner. Et les six sont accessibles. Barakallahu fik. À part le premier, Imamun Adil. Imamun Adil, ça c'est si quelqu'un il est roi ou il est président, il dirige. Mais ça c'est pas à la portée de tout le monde. Mis à part ça, il n'y a pas une de ces catégories qui n'est pas accessible. Yani, on peut faire partie, je dis pas, oui facilement, on peut faire partie de ces. C'est pas que, il n'y a pas, on dit qu'une personne qui a tout donné dans le chemin d'Allah et qui habitait avec sa femme sous un pont, ou qui a dû manger du pain sec jusqu'à la mort parce qu'il a tout donné en sadaqa. C'est pas des choses inaccessibles, hein. C'est pas des choses qui sont, yani, ou alors une personne qui a décidé de jamais se marier, de ne pas fonder de foyer, de ne pas travailler, pour vivre en itikaf de la masjid jusqu'à la mort. Non plus. Parce que rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, une personne dont le cœur est attaché à la mosquée, ça, on verra par la suite des explications, ça ne veut pas dire quelqu'un qui vit à la mosquée. Non. Parce que vivre à la mosquée, c'est contraire au mode de vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est contraire au mode de vie des sahaba ridwanullahi alayhi majma'in. Tous les anbiya alayhi salatu wassalam travaillaient et ils gagnaient leur pain quotidien, leur rizq. Ils méritaient ce qu'ils gagnaient. Ils travaillaient, comme on dit, à la sueur de leur front et ils gagnaient leur subsistance. Ils ne tendaient pas la main et ce n'est pas qu'ils vivaient dans leur ibadat, ils gagnaient leur rizq. Non, ce n'est pas comme ça. Parce qu'il y a une sunna, il y a une manière qu'Allah a organisé la création. Donc, pour revenir à ce qu'on est en train de dire, il n'y a rien qui est inaccessible là-dedans. Un jeune qui grandit dans l'adoration d'Allah, c'est impossible ça? C'est impossible qu'un jeune reçoive une telle éducation. Mais là aussi, on verra que pour qu'il y ait un jeune qui grandit à l'adoration d'Allah, il y a plusieurs facteurs. Parmi les facteurs, c'est quoi? Adisab, vous avez compris. C'est quoi parmi les facteurs?
D'adorer.
Autre chose.
L'éducation.
Hein? La famille, l'éducation. Tarbiya. La famille, l'éducation. Dites-moi, un papa, une maman qui donne une éducation, je ne dis pas stricte, une éducation religieuse à leur fils, à leur fille, qui apprend à la fille depuis l'âge 7 ans, 8 ans, comment on s'habille pour sortir. Qui apprend à son garçon depuis l'âge 7 ans, 8 ans, qu'est-ce que je peux faire en tant que musulman, ce que je ne dois pas faire. Après, c'est dans les mains d'Allah. Après, il y a des choses qu'on ne maîtrise plus. Moi, je maîtrise dans ma maison. Mais après, quand il va au collège, quand il va au lycée, Allah musta'an. Ça, c'est plus dans nos mains. Maintenant, nous de réfléchir en tant que musulman, est-ce qu'il n'est pas temps de penser à des solutions de rechange? Tout le temps, on se plaint, oui, maman, il est à collège, il fume cigarette, il fume zamal, maman, il est à lycée, il fait ici. Oui, on est d'accord. Mais qu'est-ce que vous proposez? Tout ça, là, en gens arabes, nana. Il n'y a pas fait un collège musulman? Il n'y a pas, attendez, on a plein de projets. Combien d'argent on envoie à l'étranger? C'est bien, on peut envoyer en Inde, à Madagascar et tout. Il faut aider. Mais après, il faut réfléchir aussi. Qu'est-ce qui détruit notre jeunesse? Qu'est-ce qui détruit? il y a deux choses. Je pensais à une personne. Je pensais à un enfant. Un enfant, je n'accuse personne. Hein. Allah protège des enfants de cet âge aussi. Je pensais à un enfant que quand j'étais jeune, j'avais 15 ans, je l'écoutais lire d'un jalsa. Il avait peut-être 8 ans. J'avais 15 ans, il avait 8 ans. Je l'écoutais lire, il terminait son hafez. J'avais 15 ans, je faisais un hafez aussi. Il lisait d'une voix exceptionnelle. Et les gens étaient ébahi par sa lecture, par la beauté de sa lecture. Quand on voyait cette personne, on dit que ça va devenir un cheikh ou l'islam, mufti, quelqu'un d'un haut niveau de la religion. Vous voyez ce jeune maintenant, je ne dis pas qu'il est dans l'égarement, il est hafiz le Coran et tout, mais c'est un jeune comme tout le monde. Il roule en voiture de sport, t-shirt, jean et tout, et quelqu'un normal, alors qu'il avait pris un départ fulgurant. Il avait pris un départ fulgurant et dans son hay'a, dans la manière, on voyait à travers le akhlaq de cet enfant qu'il y avait quelque chose de spécial. Ce quelque chose de spécial là, c'était quoi? C'était certainement le doua des grands-parents, le doua des parents, des salihin et le tarbiya, l'éducation. J'allais dire strict. À chaque fois que j'ai éducation, j'ai tendance à dire strict. Non, l'éducation ne doit pas être stricte. L'éducation ne doit pas être stricte. C'est pas, on n'éduque pas avec le bâton. Parce que le joueur de bâton n'est cassé, quoi, au fait. Le joueur m'a emmené à cacher tout le bâton. C'est-à-dire, il n'y a plus moyen de faire comprendre. Non, on va aller dans tous les sens, là. Et là, je pensais à une autre chose encore. Là, en roulant cet après-midi, je pensais, vous savez, il y avait des diplomates qui étaient là, hein, pour le Hajj. Et, bon, en général, c'est pas des savants, c'est pas des alims, c'est des gens qui vivent en Italie ou Portugal, qui travaillent dans le monde entier. Donc, très adaptés à la culture occidentale. Mais ils ont des paroles de sagesse exceptionnelles. Parce qu'ils ont en même temps l'éducation religieuse très attachée à leur dîn, mais en même temps ils disent qu'il faut vivre avec les gens. Il m'avait dit une parole, on l'avait amené à l'hôtel là-bas et fait visiter la chambre, et puis je me suis excusé parce qu'il y avait des petites bouteilles d'alcool dans le frigidaire. Dans les hôtels, c'est comme ça. J'ai dit, je m'excuse, on n'a pas pu tirer à temps, mais vous savez, le système européen. Il m'a dit que, cher Moulin, je fais partie de ces gens qui pensent que il ne faut pas interdire. Il avait dit une parole magnifique. Elle dit, je suis contre Al-Man'a. Je suis pour Al-Imtina'a. Hein, c'est deux termes arabes avec la même racine, ce qui fait toute l'éloquence de la langue arabe. Al-Man'a, c'est interdire. Dit que, les harams. Non, non, tranquille. Et les harams ne mangent pas. L'interdire de faire quelque chose, et que la personne ne sait pas pourquoi, comment, mais il ne faut pas faire. C'est parfois par crainte de celui qui interdit qu'on ne fait pas. Quand on dit à un enfant, allez pas au cinéma. Allez pas au cinéma, vous savez quoi raconte. Qu'est-ce que ça pas au cinéma de nos gens? Ah, longtemps donné ces exemples, maintenant c'est décalé. Si un enfant fait ça cinéma, samedi soir, c'est qu'il est tranquille. C'est quand il s'assoit à Saint-Gilles que c'est mauvais. On dit à un jeune, faut pas l'emboîter, c'est pas bon, c'est haram et tout. Et il fait un malin à clé le soir dans sa chambre, et s'il a sorti, tape à livre, passage à tabac, punition et tout et tout. Cet enfant là, c'est pas pourquoi on a été dit. Il sait qu'il y a une répression. Si je fais, il y a des conséquences dans ma vie. On me frappe, on me punit, on m'a interdit mon PSP, mon canal satellite, je sais pas, mes amis, je ne sors plus ce genre de choses, mon MSN, mon Facebook qui est vital quand même, sinon l'attention il baisse, etc., etc. Tout ça, on m'a interdit. Il sait qu'on n'a pas inculqué la crainte d'Allah, là. Ça, c'est al-man'a. Ça, c'est interdire. C'est des restrictions sans expliquer quel est le but, quel est le maqsad, quelle est l'intention, quel est l'objectif à travers cette interdiction. Ça c'est al-man'a. Il me disait que moi je préfère al-imtina'a, qu'une personne s'éloigne du péché par conviction. Al-imtina'a, c'est que c'est pas que on m'a il y a une bouteille d'alcool, mais comme mutawalli là je bois pas parce qu'il me voit, je peux pas boire. Ça c'est al-man'a. Ça veut dire que quand il sera pas là, je vais boire. C'est comme ces jeunes qui vivent réglo ici, ils mangent la baguette quand arrive Paris. La fiesta. C'est comme quand on lâche les taureaux dans les villes en Pampeloum, je ne sais pas où ça là. La fiesta. Le timam arabe, le tiapra walay, dès qu'ils Paris, on, hein, d'accord. C'est fini, boîte de nuit, moulin rouge, je ne sais pas quoi. Tout, il fait kaza, mais kaza umri. Il rattrape tout. C'est quoi le problème? Alors que jusqu'à l'âge de 19 ans, jusqu'à le bac, maman était droite, à fesse courante, bien masjid, fait tout ce qu'il fallait. C'est qu'il y avait al-man'a, l'interdiction, c'était pas al-imtina'a. Il n'était pas convaincu, pourquoi je ne fais pas ça? Il m'explique, il dit que tandis que quelqu'un qui sait pourquoi je ne bois pas cette bouteille d'alcool, il m'a dit que moi j'habite en Arabie, c'est interdit, il n'y a pas d'alcool, d'accord? Donc, quand je peux quitter l'Arabie, j'arrive à Dubaï. Il y a eu Dubaï, grande surface d'alcool. Je peux me servir, je peux boire jusqu'à en devenir sous. Il a dit non, je ne le fais pas. Il a vécu au Portugal, il a vécu dans le pays. Il a dit c'est quoi? Il dit parce que on s'abstient, on s'éloigne du haram par conviction, par amour et crainte d'Allah. Et quand on a eu la conviction que je ne fais pas ça par amour et crainte d'Allah, parce que mon Khalik, mon Razik, mon Seigneur l'a rendu, l'a décrété haram, et je ne pourrais pas m'approcher d'Allah sans éviter ce qu'il a rendu haram, il l'a interdit, alors celui qui a compris, qui a intégré ça, il ne touchera jamais ce péché. Qu'il soit seul, qu'il soit accompagné, ou même mal accompagné, il ne touchera jamais à ce péché. Il ne se laissera pas entraîner par ses amis non plus, parce qu'il a la conviction, ça c'est mauvais. C'est comme si que vos amis disaient, on boit une bouteille de Javel, vous êtes fou. Même si tous les amis disent, on va le faire. Mais moi je sais, je bois ça, c'est un poison, ça va détruire je ne sais pas quoi mes organes et tout, je vais mourir dans 5-6 heures de temps. Il ne le fait pas, parce qu'il a la conviction que ça c'est mauvais pour lui. Il comprend, c'est pas qu'on l'a interdit. Pareil, d'une manière générale, on revient. Si on retrouve le fil, on parlait donc du jeune donc qui vit dans l'obéissance d'Allah. Le jeune qui vit dans l'obéissance d'Allah, ça passe par différents facteurs. Il y a le facteur tarbiya, le facteur éducation des parents, le facteur bi'a. En ourdou, il dit ça le mahol. Mahol, c'est quoi? C'est l'environnement qu'il y a dans la maison. Dans la maison, on lit les hadiths le soir, on parle d'Allah en permanence le soir, tout ça. Ça, c'est. Il est déjà sur le trône d'Allah là, a dit ça. Allah accepte. Dans une maison, il y a l'ambiance de din. L'enfant, ça crée des automatismes. Quand un enfant, il voit que elle, 5 fois par jour, c'est une petite fille, voit sa maman, elle ouvre son moussalla, elle fait sa salat. Vous pensez pas qu'à l'âge de 4 ans, 5 ans, la petite fille, elle voit ça, à un moment donné, elle va être avec sa maman pour faire le namaz. Le garçon, il voit son papa, il va à la masjid, et quand il retourne, il fait sunnat à la maison, d'où l'importance de faire les sunnat à la maison. Pour que les enfants voient le papa faire namaz. Sinon, il sait pas, papa, il sort. Est-ce qu'il est parti acheter de pain, parti masjid, il connaît pas. Mais quand il voit le papa, il rentre, il fait salat, il fait vital, il fait sunnat, il sait, il voit. Il faut voir. Le visuel est important à cet âge-là. Il faut qu'il voit. Mais s'il voit toute la journée, maman devant télé, devant les séries brésiliennes, le papa quand il sort, travaille le soir, il assise son cigarette, il regarde télé, les deux pieds comme ça, le madame, il amène son manger dans le canapé, il mange, un peu il regarde son football, il regarde son match qui va le rendre bête, et puis il regarde son actualité, et puis il dort, vous pensez que c'est un enfant qui, dans son cœur, il va avoir ta'zim de sha'a'irillah, est-ce qu'il va, il va avoir l'importance de l'adoration d'Allah, des symboles du din? Non. Quand il voit qu'il y a la lecture Coran dans sa maison, il y a Dhikrullah, il y a lecture de Tilawat Coran, que la maman écoute des CD de Coran et tout, ça, c'est quelque chose. Tandis quand il voit que la maman écoute la musique, que la maman s'habille de manière indécente, il dit Allah Mustahil. Donc tout commence avec le tarbiya et le bi'a, l'ambiance qu'il y a dans la maison. Après il y a d'autres facteurs. Là, on n'a plus même mise dessus quand l'enfant quitte la maison. Quand il quitte la maison vers la madrasa, on est tranquille, il n'y a pas de souci. Il est bien encadré, c'est dans un environnement musulman. Mais quand il va au collège, quand il va au lycée, vous pouvez lui donner la meilleure des éducations. Si vraiment, tous les matins, vous ne faites pas de doigts, la protéger mes enfants, je vous assure qu'il y a des soucis à se faire. On m'a expliqué il y a une semaine que Zamal, premier contact avec le Zamal, CM2. Il fait peur, il fait pas peur. À notre époque, je parle à notre époque, c'est pas en mérovingien ou alors calomprie préhistorique encore. Ça remonte à quand on était au collège, on ramène à 92, 93, d'accord, 92, quand on parle de Zamal et tout, c'est vraiment majeur, 17 ans, 18 ans, il s'est buté, il cachette derrière le mur là-bas, il fume son joint et tout. Ok, mais attends, là on dit que première distribution, ça c'est premier contact qu'on donne gratuit. Il faut en sorte que à 10 ans, 11 ans, maman, il commence à connaître c'est quoi les petites pilules bleues, comment on appelle encore ça? Rivotril. N'a notre nom encore ça. Enfin bref, l'antane, voilà. D'accord? Il y a dès cet âge-là. Pour ça, il faut dire aux enfants attention, quand quelqu'un vous donne des bonbons, vous dit consommez ça et tout, faut pas. Ça fait peur. Quand on sait que à cet âge-là, déjà, on commence à faire connaître un enfant. Vous vous rendez compte, c'est quoi un enfant de CM2? Un enfant de CM2, pour moi, c'est un maman qui regarde des dessins animés, c'est l'innocence. Mais cet âge-là, déjà, on m'a dit, une personne, premier contact avec les stupéfiants, c'était à cet âge-là. Maintenant, quand elle arrive au collège, quand elle arrive au lycée, là, c'est plus de nos mains. Alors, on se plaint, dit, oui, maman, il est comme ça, quand elle est collège. Oui, maintenant, moi, en tant que musulman, je dois réfléchir à la solution de rechange. Et c'est de trouver une solution, faire en sorte que, on n'a pas dit non plus que après un certain âge, les enfants ne vont plus à l'école. Il faut bien qu'ils aient une situation un jour. Bien sûr, il n'y a rien à dire là-dessus, d'accord? Mais il faut faire en sorte que l'endroit où ils apprennent, c'est un endroit où toute la tarbiya, que j'ai donné toute l'énergie que j'ai dépensée depuis l'âge de 0 ans jusqu'à l'âge de 11 ans. Il ne faut pas que tout ça, ça s'éparpille, enfin, que ça se perd parce qu'il va dans un endroit où il n'y a pas d'ambiance religieuse, où il n'y a que la dépravation. Donc à nous de nous faire du souci si nos grands-parents, ils ont œuvré, ils ont apporté leur pierre à cet édifice exceptionnel qui est ce qu'on a, alhamdoulilah, la communauté, à travers les masajid, les madaris et les maqabir. D'accord? Ils ont fait ça. Maintenant, nous, on fait quoi, nous? On fait juste namaz? On va changer, enfin, je ne dis pas ça, on va repeindre les murs, changer les moquettes, on va juste entretenir? Non, il faut qu'on apporte quelque chose. Et l'apport essentiel, c'est de réfléchir pour les générations à venir, parce que j'ai discuté avec deux professeurs récemment. Un professeur de lycée professionnel, un professeur d'école, un instituteur, me disent que on va vers la catastrophe de l'éducation nationale. Avec le manque de moyens, il y a de moins en moins de surveillants, ce qui fait que dans les écoles, dans l'école, il n'y a pas de surveillants, il y a les trafics dans les cours des récréations, il y a tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Alors si moi je ne me fais pas du souci pour l'éducation, pour l'instruction de mes enfants, dans quel contexte ils vont recevoir l'instruction, je suis le premier des coupables. Le premier des coupables parce que je suis inactif, je suis passif. Après, quand les enfants ils reviennent avec plein de choses dans la tête, avec des choses qu'on n'imagine pas, qu'est-ce que j'ai fait moi pour essayer de changer ça? Allah Mustan. Vraiment, mes chers frères, qu'Allah protège nos jeunes. Parce que là, on ne va pas faire calgouzari, on ne va pas vous expliquer ce qui se passe, mais ce que j'entends, ce sont des réalités. Ya, ça fait peur. Un enfant de 15 ans, ce qu'il est capable de faire, homosexualité à cet âge, communauté musulmane, c'est très grave. C'est très grave. Je ne dis pas plus, parce que ce que je vais dire, je n'ai pas de solution. Donc ça ne sert à rien de dresser un tableau tout en noir. On va essayer d'aller de l'avant. Mais sachez que la situation, elle est grave. Mais ces jeunes-là, ils sont dans les péchés, ils sont dans les garments. Maintenant, la question que je me pose, quand ils seront parents demain, est-ce qu'ils auront le souci de donner une éducation religieuse à leurs enfants? La question que je me pose, c'est au bout de combien de générations on perd le dîn? Au bout de combien de générations on va perdre le dîn? Là, on est sur la pente. Là. Vraiment, qu'Allah nous protège, protège nos enfants, mais à nous d'apporter des solutions. Parce que tout se dégrade, malheureusement, quand ces enfants vont au collège, et pire quand ils sont au lycée. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc tout ça, tout c'est accessible. Quelqu'un dont le cœur est attaché à la masjid, les gens qui se fréquentent par amour pour Allah avec sincérité, une personne qui reçoit des avances de zina, d'adultère et qui s'en éloigne, c'est pas des choses impossibles ça. Tout ça c'est des choses qui sont accessibles. Quelqu'un qui donne dans le chemin d'Allah avec sincérité, quelqu'un qui pleure par amour et par crainte de son Seigneur, ce sont des choses qui sont accessibles. 28 minutes, on fait encore 5 minutes, inshallah. Alors ce hadith, les ulama rahimahoullah disent également que ce hadith englobe toutes les catégories de personnes possibles dans une société. On commence par un roi, un imam, un roi, un dirigeant, on passe à un jeune, on passe à monsieur tout le monde dans leurs relations amicales. Le citoyen, le musulman de base, dans ses relations amicales avec son prochain. D'accord ? On passe à l'homme et la femme dans leurs relations sentimentales. C'est-à-dire, ça englobe toutes les tranches de la population, ça englobe toutes les situations de la vie. Les riches et les personnes moins riches, d'accord ? C'est-à-dire que ça nous fait comprendre, ça c'est un message important, que pour se rapprocher d'Allah, il n'y a pas nécessité de faire partie d'une élite de ce dunya. C'est pas que juste celui qui est devenu un alim, ou celui qui vit dans la masjid par exemple, c'est lui qui va se rapprocher d'Allah. Non, c'est accessible à tout le monde, quelle que soit notre situation, quel que soit notre travail, notre profession. Toute personne peut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal à condition de développer les qualités qui est commune à ces 7 catégories de personnes. Et ces qualités-là, on va les détailler inchallah la semaine prochaine ou la semaine d'ensuite. Ces qualités, c'est quoi? C'est l'amour d'Allah, la crainte d'Allah et le contrôle de son nafs. Vous allez voir qu'à travers ces 7 exemples, ces 7 catégories de personnes, on retrouve toujours ces 3 facteurs-là. L'amour d'Allah, la crainte d'Allah et muraqabatun nafs. C'est le contrôle de soi, contrôler son nafs. Faire en sorte de ne jamais obéir ses instincts, ses pulsions dans le haram. Toujours avoir la crainte, l'amour d'Allah, la pensée d'Allah dans son cœur. C'est ce qui réunit ces sept catégories de personnes qui fait qu'ils sont devenus mukhlis, qui sont des exemples de sincérité. Alors si on peut traiter que dans un seul de ces points, et puis le reste sera pour la prochaine fois, inshallah. Ar-rahbatu wa-rahbatu fillahi wa minallah. La première chose, le premier sifat, la première qualité qui est commune à ces sept personnes, c'est l'amour et la crainte d'Allah et la pensée d'Allah en permanence. N'expliquez ça, il y a quelques jours aussi dans un khutbah de Jum'a, dans un bayan de Jum'a, que être musulman, c'est pas juste ces cinq piliers. C'est pas juste que je fais ma salat et puis quand j'ai fini ma salat, ben je redeviens comme monsieur tout le monde. Non, c'est pas comme ça. Être musulman, c'est avoir toujours la pensée d'Allah de son cœur. Être musulman, c'est être toujours conscient qu'Allah Ta'ala m'observe, mustawa 'ala al-'arsh. Allah est sur son trône et il m'observe. Et Allah a mis des anges, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ils sont là et ils écrivent tout. Chaque parole, chaque geste. Et dans certains hadiths, ils même disent chaque pas que le musulman y fait, ils écrivent ce pas-là, est-ce qu'il a été fait vers quelque chose de bien ou quelque chose de mauvais. Et je suis conscient également qu'Allah a créé des groupes d'anges qui se relaient matin et soir. Il y a un groupe d'anges qui le matin, il vient sur le dunya, il observe l'être humain jusqu'au soir. Et au soir, ils remontent vers Allah, ils font le rapport. Et pendant ce temps, il y a un autre groupe qui descend le soir, qui va observer Imran, Ismaïl, Ibrahim, Ishaq, qui va remonter le matin pour dire à Allah comment il a passé la soirée. Dans l'obéissance, dans la désobéissance, de manière neutre. Et Allah, il sait déjà ce qu'on fait, mais Allah a créé ces makhlouqats dans le but de faire un roulement, qui est un fonctionnement de la création. Et Allah, il sait déjà ce que nous faisons. Être musulman, c'est être conscient de tout ça. Et celui qui est conscient de tout ça, dites-moi, comment il peut encore faire un péché? Ça nous montre le décalage qu'il y a entre une pratique, je dirais pas aveugle, mais une pratique qui est devenue habitude, tradition, culture même parfois, et une pratique avec prise de conscience. Parce que comme je disais encore, enfin, on expliquait l'autre fois, un musulman qui a fait son salatul fajr en jamad, masjid, quand il va acheter le pain là, est-ce qu'il ne va pas faire la bise à la boulangère quand même? C'est pas possible ça. Quelqu'un il sort de masjid qui a fini bonnet, il va, je voulais dire que je dis tout le temps la même chose, mais ça me choque. Ça montre le décalage qu'il y a entre la pratique et l'esprit du musulman. Quand quelqu'un il sort d'un ibadah, c'est pas que l'ibadah est fini, c'est pas quand j'ai fait assalamu alaykum wa rahmatullah, me dit le dernier ange bye bye jusqu'à Zohar, il crie plus rien de dos et Zohar. Non, c'est que je reste mu'min dans la masjid, en dehors de la masjid, au travail, dans le bus, dans les embouteillages, quels que soient les endroits, je reste mu'min dans mon cœur. Je reste muslim. Et muslim, comme on l'a dit une fois, c'est quoi? On retrouve avec muslim istislamu lillah. Je suis soumis à Allah. Je vis pour Allah. Ce que je fais, je réfléchis toujours, est-ce qu'il y a l'accord, l'agrément d'Allah dans ce que je fais, dans ce que je vais dire? Ça, c'est le musulman qui a la pensée d'Allah en permanence dans son cœur. Et ça, comme on a dit, c'est la première des qualités qui est commune à ces sept catégories de personnes. Le imam, le chef, le président, le roi, comment on appelle ça, le ministre, des gens à qui Allah a accordé un pouvoir, d'accord? Qui c'est qui les suit avec eux? Un roi, par exemple, un monarque. Est-ce que la population va lui demander des comptes? Mais est-ce que vous avez été juste dans telle chose? Non. Il y a des choses qui sont visibles, il y a des choses qui ne sont pas visibles. Il y a un, le seul qui est au-dessus de lui, c'est qui? C'est son créateur. Et si il fait preuve de justice, c'est parce que de son cœur, il a la crainte d'Allah. Il sait que si je fais quelque chose d'injuste, il y aura telle punition de la part d'Allah le jour de Qiyama. Donc un imam, un roi, un dirigeant qui est juste, c'est quelqu'un qui a su développer la crainte d'Allah de son cœur. Vous êtes d'accord ou non? Parce qu'il n'y a personne qui le commande là. Vous dites à quelqu'un qui est au bas de l'échelle, il ne va pas faire tel bêtise parce que son patron le regarde. Celui qui est en haut, tout en haut, tout en haut, personne ne regarde pas lui. Personne ne lui demande des comptes. C'est que son Seigneur qui est au-dessus de lui, s'il est conscient que son Seigneur est au-dessus de lui. Et quand il sait que son Seigneur l'observe, il ne fera pas d'injustice. C'est quelqu'un qui a su garder la crainte d'Allah en permanence dans son cœur. Deuxième catégorie de personnes, le jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Ça, c'est l'exemple typique de la personne qui a su développer l'amour et la crainte d'Allah dans son cœur et la pensée permanente d'Allah dans son cœur. Parce que les péchés pour les jeunes, c'est innombrable. Musique, alcool, boîte de nuit, les relations haram, zina, masturbation, adultère, homosexualité, tout ça, c'est J'étais choqué quand on a fait le coup là-bas au lycée. Il y a des questions et il y a un jeune qui pose une question. Je pense qu'il y aurait des questions plus techniques sur la religion, sur la comparaison des religions. Mais il y a un qui m'a demandé clairement quelle est votre position sur l'homosexualité. Vous, en tant qu'imam, en tant que représentant des musulmans, qu'est-ce que vous pensez? On a expliqué la position claire et nette, hein, d'accord. Mais ça veut dire que pour un jeune, c'est pas pensable de dire que c'est quelque chose de contraire, c'est à la nature humaine, c'est quelque chose qui est pas acceptable moralement. Dire qu'il y a eu un tel, il y a eu un tel discours, un tel martelage médiatique à travers Internet, à travers tout ce qu'on entend à la télé, qui a eu pour but de faire intégrer, de faire accepter l'homosexualité à la population mondiale, qu'une personne qui s'oppose à l'homosexualité, c'est quelqu'un qui est presque inhumain, c'est quelqu'un qui est dépourvu d'humanisme. Alors on ne va pas parler de ça, parce que vous savez que c'est un délit de dire des choses pour l'homosexualité. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils commencent à intégrer ça même dans l'éducation. Ils veulent faire comprendre aux jeunes dès le plus jeune âge. Il y avait même un dessin animé qui était prévu de faire passer aux primaires. À nos enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, et puis je crois qu'il y a eu une intelligence. Ça n'a pas été accepté, mais il y avait un extrait, allez sur YouTube, essayez de retrouver. Bref, c'était pour faire comprendre aux enfants que un monsieur et un madame peuvent vivre ensemble, deux monsieur peuvent vivre ensemble, deux madames peuvent vivre ensemble également. Mais c'est terrible ça. Allez, vous allez dire que oui, de quel droit vous... Allez, quelqu'un est devenu grand, il a fait un choix. En tant que musulman, je lui fais le rappel. Après, c'est entre lui et Allah. D'accord ? Mais ne venez pas dire à mes enfants qu'il pourra choisir quand il sera grand s'il voudra vivre avec une femme ou avec un homme. Ah non, là, c'est pas possible. Non, là, c'est pas possible quand même. D'accord ? Et dès le plus jeune âge, à notre époque, qu'on était au collège, hein, en quatrième, c'est l'éducation sexuelle. Là, c'était de nos jours, l'éducation sexuelle. Les enfants quatrième, ils peuvent faire cours à leurs professeurs. Ils connaissent plus de pratiques que les professeurs. Wallah musta'an. Maintenant, l'homosexualité, c'est normal, ça. Wallah musta'an. Ça, c'est un des signes de Qiyama, ça. Ça, c'est un des signes de la fin des temps. Quand iktifa ur-rijal ibir-rijal wa iktifa ur-nisa ibin-nisa. C'est l'action pour laquelle le peuple de Lot a été détruit. Maintenant, ça s'est développé, ça s'est, Wallah musta'an, généralisé. Et à tel point que, si, imaginez sur un plateau TV, quelqu'un il ose dire que moi je m'oppose à l'homosexualité. Oulalalalala. Wallah musta'an. Donc, ces péchés-là, les premiers à être exposés, ce sont les jeunes. Et ce jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah, c'est vraiment l'exemple typique de celui qui a eu la crainte d'Allah dans son cœur. On va aller un peu plus vite. Quelqu'un dont le cœur est attaché à la masjid, c'est quelqu'un qui a su développer l'amour d'Allah dans son cœur, qui fait que cette personne n'est pas allée dans les endroits haram, mais il consacrait son énergie uniquement à aller dans les endroits qu'Allah aimait. Et quand il y allait, c'était pas pour rencontrer des gens, rencontrer des amis ou pour tel projet, c'était uniquement pour l'adoration d'Allah. Il a développé la sincérité, l'amour pour Allah dans son cœur. On continue. Al-mutahabuna fillah. Ceux qui s'aiment, qui se fréquentent pour Allah uniquement. Et ça, c'est rare de nos jours. On fréquente notre prochain, souvent c'est parce qu'il y a un intérêt. Qu'est-ce que je peux gagner avec lui? Et quand je vois qu'il est hors jeu, ben voilà, l'amitié va s'arrêter à là. Quand quelqu'un est au poste, quelqu'un travaille à la préfecture, quelqu'un travaille au conseil général, conseil régional, la CAF et tout nous connaît que bon, c'est bon camarade avec lui. Le jeune est à la retraite, il n'a plus de relation, il n'a plus de contact. Bon, ben là aussi, la personne est sans intérêt. C'est pour ça que dans notre société, on n'aime pas les vieux. Ça, c'est terrible ça. Alors que dans le dîn, je veux dire que vous allez dire que je dis plein de choses. Hein. Je montais au Moufia, je passais, c'est un quartier, il n'y a que des cités. Hein. Je passais près d'une cité, il y avait un immeuble, il y avait une petite cour. J'ai vu un vieux monsieur, un barbe blanc, un vieux monsieur. C'était pas un musulman bien sûr. Il s'asseyait comme ça, il était là tout seul. Il regarde les enfants jouer. Je regarde cet homme-là, je dis subhanallah, un vieil homme comme ça. On voit la tristesse de ses yeux. C'est quelqu'un qui doit... Je le regarde, et ça, ça a l'air d'être quelqu'un qui tous les matins, il sort, il s'assoit, et il attend le soir, il rentre. Il y a des gens qui sont comme ça. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'enfants, ils ne sont pas visités. Et les enfants, ils sont à Paris, ils sont à l'enfant, ils disent, je fais des films. Mais c'est à peu près la situation à notre époque dans la société occidentale. Maintenant, comparé à un vieux, une personne âgée, quelle est la considération pour cette personne dans le dîn? Comment quelqu'un qui est âgé est aimé par Allah? Et comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam recommande, ordonne et met en garde, pour ne pas dire menace, celui qui n'a pas de respect pour cette vieille personne, pour ça menace cette personne, laïsa minna, que la personne ne fait pas partie de nous. celui qui n'a pas de pitié pour les petits et qui ne respecte pas les plus âgés. De nos jours, voyez les vieux, ceux qui sont pas dans la société où il n'y a pas iman. Quelqu'un qui est à la retraite, c'est quelqu'un qui est devenu inutile. Il n'apporte plus rien à la société. Au contraire, c'est lui qui a besoin de... comment on fait ça? Sa retraite, ses allocations vieillesse et tout. Ça, c'est l'ingratitude de la société. On a beaucoup de discours d'humanisme, de valeurs humaines, mais ces valeurs humaines-là, c'est tant que vous êtes actif. Quand vous êtes à la retraite, c'est fini, bye bye. Vous ne faites plus partie de la société, donc ces discours-là ne vous concernent plus. Alors que de le dire, c'est incroyable. Vous allez dire encore des histoires, mais... que ce soit ce diplomate qui était venu ou celui d'avant, où il y avait une personne qui s'appelait Cheikh Arifi qui était venu, c'est pour vous montrer la différence qu'il y a entre le monde, entre des gens qui viennent d'un pays musulman et nous qui sommes musulmans avec une culture occidentale. Je vous parle de ces personnes qui étaient venues pour les visas, et ils viennent de Riyad, d'Arabie Saoudite, et à chaque fois je me prends des raclés avec eux, hein. Une fois avec Cheikh Arifi qui était là, il était invité à prendre un petit déjeuner chez mon père, et mon père, bon, comme personne âgée, il prend un peu de temps avant de venir à table. Bon, ok, et je me suis dit, je cherche à la sonde s'asseoir, on commence, boit un peu le thé. Regardez, je ne pourrais pas dire de gros mots en bête, hein, pour ne pas dire d'autres mots. Il m'a dit, tu touches la nourriture, ton papa est là-bas. C'est quoi ça? Il m'a dit, Cheikh Moulay Shahada, c'est quoi ça? Il m'a dit, non, ben, il va tarder. Pour moi, c'est l'invité, on va commencer à le servir. Il m'a dit, jamais, c'est impensable, inimaginable. Un enfant, il commence à manger, son père n'est pas venu à table, c'est irrespectueux. Et leçon. Quand il marche, il me dit, mais il ne faut pas marcher à côté de ton père, on mange toujours en retrait, le papa est toujours devant et tout. Ça, c'est des leçons, ça. On n'y pense pas. Mais effectivement, ça, c'est l'akhlaq du musulman. De nos jours, on a des gens, ils respectent d'autres personnes, ils mangent derrière. Mais quand il y a que ce papa, on va y balader, quand il y a d'autres personnes. Allez, bon, on ne va pas entrer dans l'histoire, mais il y a un décalage, parfois. Il y a un décalage, d'accord? Et ce genre de choses. Et le dernier diplomate, il dit, mon papa, il me vient, il me fait salam, il m'embrasse le front. Il me dit, pourquoi c'est lui qui t'embrasse? Mais c'est pas comme ça que ça se fait. C'est l'enfant qui doit embrasser le front de son papa, embrasser sa main. Ça, c'est le adab, le respect. Encore un claque. On prend, on écoute. D'accord? Et je vous dis, c'est pas des gens très religieux. Ils sont pas barbus, ils sont pas machin, ils sont très à l'occidental. Mais pour eux, ça, c'est des valeurs essentielles, ça. Vous allez discuter avec eux sur la barbe, on garde pas, rase pas. Il y aura débat. Il y aura échange d'idées. Ils auront leur position. Mais respect des parents, respect des anciens, il n'y a rien à dire. Intransigeant. C'est admirable. Ça, c'est admirable. Parce que ça, c'est pas une culture arabe. C'est pas la culture saoudienne. Ça, c'est ta'lim islami. Ça, c'est ce que notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous a enseigné en termes de respect entre les générations et plus encore en termes de respect entre parents et enfants. C'est pas pour rien que le prophète dit que le paradis se trouve sous les pieds des mamans. Vous savez, quand on dit ça aux lycéens là, qui sont pas musulmans, ils sont choqués, hein. Moi je sais qui c'est qui est en face de moi. C'est des enfants qui, leurs parents peuvent mourir en 5 minutes, ça les fait ni chaud ni froid. J'exagère un petit peu, mais il y a tellement un décalage avec les valeurs humaines qu'il n'y a plus de relation entre enfants et parents. Pour eux, le Facebook, le Twitter ou le MSN, ça a beaucoup plus d'importance que leurs parents. Leurs amis, ça compte plus pour eux que leurs parents. Alors quand on dit que moi je suis musulman, je sais que si j'aurai la plus grande barbe au monde, je serai le plus grand ayatollah, le plus grand ce que vous voulez, Ben Laden ou ce que vous voulez, mais si ma maman n'est pas satisfaite de moi, je n'entre pas au paradis. Parce que le paradis, c'est sous le pied de la maman. Ah, ça les interpelle. C'est des valeurs qu'ils n'ont plus l'habitude d'entendre. Est-ce qu'à la radio, ils disent ça? Est-ce que dans les pubs, ils disent ça? Dans les publicités, j'ai déjà dit ça il y a un an. Ils vont vous dire que quand vous allez en vacances, n'abandonnez pas vos animaux domestiques. Amenez-les à la SPA. On n'abandonne pas son chien dans la rue. Oui, non? Mais est-ce que dans une pub on voit un vieil homme, une vieille dame sur la rue dit que n'abandonnez pas vos parents, c'est eux qui vous ont mis au monde. Ça il dit pas ça malheureusement. Mais où sont les véritables valeurs humaines? Allah m'stan. Et sur Facebook il y avait une image, il y a des choses bien aussi. On monte une maman avec un petit bébé qui serre contre son sein, qui lui donne à boire. Enfin, on monte pas, mais qui le serre contre elle pour montrer l'amour de la maman pour un bébé. Elle dit que ce bébé-là, pensez-vous, un jour il sera grand, alors que cette maman-là a passé ses nuits pour cet enfant. Pensez-vous, cet enfant, un jour, il deviendra grand, il va désobéir à sa maman, il va faire telle chose. Impensable, inimaginable, qu'on voit l'amour avec lequel cette maman regarde son bébé. Ça vous interpelle, dit subhanallah. Ce sont là les valeurs de notre din. C'est pour ça que c'est la plus belle des religions. C'est la plus belle des religions, Allah. On continue. on va s'arrêter là, Inch'Allah. Sinon, il y a encore trois. Et puis, si on va dire rapidement, on ne va pas vraiment saisir le sens. Il vaut mieux faire peu, mais comme il le faut, et qu'on comprend bien le message. Mes chers frères, ça, c'est l'élite. Ça, c'est l'élite de la Ummah. C'est les gens qui seront les plus chanceux, les plus gradés. Il n'y a pas de grands footballeurs là-dedans. Il n'y a pas de grand star, il n'y a pas de milliardaire, il n'y a pas de millionnaire, il n'y a pas de je ne sais pas ce que les gens admirent de nos jours. Il y a des gens qui avaient trois qualités. Amour pour Allah, crainte d'Allah et contrôle de soi, pensée d'Allah en permanence. C'est pour ça qu'Allah les invite sous l'ombre de son trône et jusqu'à ce que ces personnes accèdent au paradis avec grande facilité. Qu'Allah nous fasse comprendre ces quelques paroles, qu'Allah nous fasse réaliser les qualités de ces gens-là, qu'Allah nous accorde ces qualités et qu'Allah nous choisisse, nous accorde les sifat pour faire partie de ces gens le jour de la résurrection. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair.